que Noël. J'aime beaucoup cet événement-là. Et je vais pas hâter Noël pour revivre ça, là, mais on a l'occasion de vivre un dîner communautaire à chaque début de mois. Et je trouve que ces repas-là communautaires que l'on a, comme par exemple à Noël ou dans les premiers dimanches de chaque mois, une belle image de l'Église, une belle image de ce que c'est l'Église locale. Imaginez que, par exemple, chacun d'entre nous, on vient au repas partage et puis on emmène quelque chose à manger pour partager. Alors, je sais pas, moi, par exemple, chacun de spécialistes selon vos talents culinaires, vous apportez, par exemple, Joanne, son fameux punch, la femme à René, Alma, elle emmène sa salade de patates avec son dessert, là, j'oublie c'est quoi le nom. Il y en a qui amènent du pain, puis moi, je suis le préposé au beurre, mettons. Alors, là, on vient en assemblée, puis là, qu'est-ce qu'on fait de nos choses? Ben, on les met sur la table. Puis on les met en commun. Et là, moi, avec mon beurre, je l'emmène, je le mets sur la table, puis je le mets proche du pain, parce que généralement, on va prendre le beurre avec le pain. Et là, ça devient un repas communautaire très, très agréable, où est-ce qu'on a de la bonne communion, où est-ce qu'on partage notre repas ensemble que j'ai préparé. Mais si je viens, par exemple, au repas partage, puis je dis, ben moi, mon beurre, je le garde pour moi. Fait que pour dîner, je vais manger mon beurre. Mais là, je me trouve désavantagé parce que je pense qu'après une coupe de cuillère, je vais probablement être tanné. Et ceux qui veulent manger du pain vont être privés du beurre parce que moi, j'ai décidé de le garder. Voyez-vous ce que je veux aller? Le repas partage est une belle image de ce que c'est la vie d'Église, de ce que c'est la communauté ensemble, où ce que quand on vient ensemble, pas seulement le dimanche matin, mais quand on a des activités ensemble, on appartient à une famille et qu'on met ce que l'on a, ce que Dieu nous a donné, nos talents, notre service, notre temps, notre argent, et qu'on met ça en commun ensemble, ben le repas ensemble, la vie familiale, la vie que l'on a en communauté est de loin beaucoup plus intéressante que si on se réunit individuellement et qu'on reste en individu, bien qu'on est en communauté physiquement. Le repas partage est une belle image. Et je vais faire la suite ce matin de ce que j'avais fait la dernière fois sur l'Église. Ta place est dans l'Église. Jésus crée son Église. Jésus a créé l'Église. Il est le bâtisseur. C'est lui qui l'a inventé. Et il avait un plan pour chacun des croyants. En croyant en lui, en étant sauvé par Jésus, Dieu m'a donné une relation directement avec lui. Et en même temps, Dieu m'a donné une place. Dieu t'a donné une place dans l'Église, dans une communauté. Et Dieu a donné une mission aussi à son Église que, je vais saisir l'occasion, on va la rappeler, il faut se la rappeler le plus souvent possible. Une assemblée, une Église locale a une mission qu'on appelle pacte. Je ne sais pas si tu leur dis dernièrement, René. Oui, bon, ben c'est bon, on va le rappeler. Pacte, prière pour paix, A pour adoration, C pour communion, T pour témoignage, c'est-à-dire notre évangélisation, E pour l'enseignement, S pour le service. On se doit que d'avoir une mission équilibrée dans tous ces aspects de ce que Dieu nous a laissé comme mission. Et on va s'investir à chacun d'entre nous avec la place que Dieu nous donne pour s'investir dans la mission de l'Église avec les dons, les talents qu'il nous a donnés. Et le plus possible en tant qu'Église, on va chercher à être équilibré dans cette mission-là que Dieu nous a donnée pour qu'on soit prospère. L'Église universelle est abstraite. Je l'avais dit aussi la dernière fois, c'est abstrait parce que l'Église universelle, c'est à partir de la Pentecôte jusqu'au moment où ce que Jésus va revenir chercher son Église. C'est-à-dire tous les croyants de cette ère-là sur toute la surface de la terre. Un jour, on aura une réunion avec notre Maître au ciel ou aux noces. Mais, en attendant, la manifestation de l'Église universelle se concrétise par l'Église locale, par notre assemblée. On est la manifestation de l'Église universelle ici à Beauport pour avoir un témoignage ici à Beauport. Et cette mission-là que Dieu nous donne, elle est vraie aussi pour nous à Beauport. Dieu a une place pour toi dans l'Église. Dieu a une place pour toi. Il t'en a donné une. Elle n'est pas plus que ce que tu aimerais avoir et pas moins non plus. Il t'a donné une place et il veut que tu la prennes. Ce matin, on va faire la suite en voyant trois différentes autres bonnes raisons pour lesquelles il est bon et nécessaire aux croyants de s'attacher à l'Église locale. Vous êtes là ce matin et j'imagine que vous y croyez, puisque vous êtes là. Mais en même temps, c'est bien de se rappeler c'est quoi ces bonnes raisons-là. Pourquoi est-ce que j'ai ma place dans l'église locale? Pourquoi est-ce que Dieu veut que je m'investisse? Peut-être que vous êtes en contact avec une personne aussi qui, pendant un certain temps, s'est détachée de l'église locale et que présentement, elle a ce besoin-là que de revenir s'attacher à d'autres croyants. Mais on a besoin de se rappeler les bonnes motivations, les bons motifs, les raisons que Dieu nous a données pour qu'on s'attache à l'église locale, puisque c'est bon et nécessaire pour nous. Je répète rapidement les trois choses qu'on avait vues la dernière fois. Tu as ta place dans l'Église parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Si Dieu est le Père, je suis son enfant, nous sommes une famille. J'ai ma place dans la famille. Dieu a fait de moi un enfant de Dieu. Tu as ta place dans l'Église parce que tu fais partie du corps. Alors, si je fais partie du corps, ben je suis un des membres du corps, donc j'ai ma place dans le corps. Je suis même indispensable aussi dans le corps, comme vous l'êtes. Tu as ta place dans l'Église parce que tu contribues à l'enrichissement mutuel. On disait que Dieu a donné des dons. Dieu vous a donné des dons. Dieu m'a donné des dons. Et ensemble, on les met sur une table au centre pour une vie communautaire ensemble dans l'Église. Tu as ta place dans l'Église. Ce matin, on va voir c'est la continuité de trois autres bonnes raisons pour lesquelles il est bien que de prendre notre place dans l'Église locale. On va faire un mot de prière avant que le Seigneur nous dirige dans sa parole. Seigneur, on vient devant toi pour te louer premièrement. Tu es un grand Dieu, un Dieu saint. Tu es un Dieu en même temps, Seigneur, qui dirige toutes choses. Tu es le Dieu de l'univers. Tu es le Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et on veut ce matin apprendre à te connaître, toi. On veut que tu nous parles à travers ta parole, Seigneur. On veut te glorifier à travers nos vies et on veut en connaître encore plus de toi pour marcher selon ce que tu nous donnes. Alors que ton esprit nous accompagne, qu'il parle à chacun d'entre nous dans ce que l'on a besoin de comprendre, Seigneur, pour que notre vie fasse un pas de plus encore pour toi. C'est notre ton fils qu'on te prie. Amen. Première des choses, ce matin, tu as ta place dans l'Église parce que tu fais partie des matériaux de construction de sa maison. Tu fais partie des matériaux de construction de sa maison. Imaginez, pendant un temps, on parlera pas longtemps sur ça, mais le temple de Salomon était une belle construction. Il avait été choisi avec des matériaux vraiment précieux et ça avait été pensé intelligemment. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été apportées pour l'édification du temple sous Salomon. Mais le temple de Salomon n'est rien comparativement à la maison spirituelle que Dieu fait avec nous. Pourquoi? Parce que les matériaux de sa maison ont beaucoup plus de valeur. Parce que vous en faites partie et j'en fais partie. Nous sommes les matériaux de sa maison. Tournez dans 1 Pierre, le chapitre 2. Je suis sûr que pas mal chacun d'entre vous, vous avez déjà joué avec des Lego. Ça te rappelle des souvenirs, Alain, hein? OK, vous connaissez c'est quoi une boîte de blocs Lego? C'est plein de pièces différentes. Individuellement, là, ma boîte là, est remplie de blocs Lego. Et puis, ça fait rien. Des blocs tout seuls comme ça qui sont pas assemblés, ça fait rien. T'as dit quelque chose? laisser tomber l'ego, hein, c'est bien, c'est bien. Mais on va faire quelque chose de plus spirituel avec l'ego. Avec les Lego. OK. Imaginez, là, on a différentes grosseurs et puis chacune des pièces tout seul comme ça, on ne forme rien. Mais quand on prend le temps de s'asseoir et qu'on devient des bâtisseurs, et là, des fois, on prend ça au sérieux, hein, on essaie de se construire un vaisseau spatial. Je fais ça avec mes enfants des fois, et là, on va prendre les pièces, puis là, on va les assembler pour construire quelque chose. Alors, ce matin, ça va prendre 1h20, si ça vous dérange pas, la prédication. Non, mais j'ai déjà préparé le coup. On prend plusieurs pièces, puis on en fait une maison. C'est pas moi qui l'ai construit, hein? C'est pas moi qui l'ai construit. Et là, même si... non, c'est pas Julie non plus. C'était une gardienne qui était venue jouer avec nos enfants. Je pense que c'était Rachel Jugard est en bas. Et là, même les plus petites pièces, là, vous voyez, ça, c'est une pièce à 1. Mais même ces petites pièces-là sont nécessaires. Et là, la boîte de Lego est remplie de pièces différentes. Mais une fois assemblée, une fois édifiée, elle forme une maison. Cette maison-là, elle est belle maintenant parce qu'elle a été construite, parce qu'elle a été édifiée, elle a été construite droite, On a bien parti la base, puis elle a bien monté. Le temple de Salomon a probablement été édifié un peu de la même façon. On a apporté des matériaux, puis on a mis les pièces ensemble, on a édifié ça, puis ça donnait de quoi de vraiment beau. Mais la maison spirituelle que Dieu fait avec nous, il nous prend ensemble et il fait quelque chose de très beau, il fait quelque chose de très bien. Et chacun d'entre nous, peu importe la pièce que l'on est, une fois assemblé, on forme une maison spirituelle. Vous avez tourné dans 1 Pierre 2. Regardez les versets, je vais y tourner moi aussi. Les versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Gardez un doigt dans 1 Pierre, tournez tout de suite dans Éphésiens. C'est un passage parallèle qu'on va lire avec Éphésiens 2. On l'avait lu la dernière fois, on va relire pour tirer d'autres éléments. Les versets 19 à 22. Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas notre bâtiment, puis je sais que vous le savez, mais il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler que c'est nous, c'est les individus, les gens que Dieu a sauvés, que c'est nous l'édifice. Et tout l'édifice est coordonné principalement en commençant par la pierre angulaire. Cette pierre angulaire-là a été rejetée aussi au début. Mais après avoir été rejetée, elle est devenue la pierre principale de l'angle, celle avec laquelle on a commencé à construire, celle avec laquelle Jésus-Christ, qui est lui-même la pierre angulaire, a édifié tout le reste de l'Église d'une façon droite, d'une façon stable à un point tel que même le séjour des morts ne peut rien contre l'Église, puisqu'elle est forte, puisqu'elle est solide, ayant été construite par Jésus, Jésus étant la pierre angulaire, avec un fondement aussi des apôtres, des prophètes, et puis finalement on revient à Pierre, où ce que nous aussi, verset 5, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, approchez-vous de la pierre angulaire, approchez-vous de cette fondation-là, unissez-vous à lui, qu'on soit attaché au maître, qu'on soit attaché à la pierre angulaire, pour que ça soit, pour qu'on soit bien installé, pour qu'on soit fixe et bien placé dans la maison, qu'on s'approche de lui. Et nous aussi, peut-être qu'on a été rejetés par les hommes, mais on a été choisis par Dieu, on est précieux par Dieu. C'est pour ça que son Église, c'est pour ça que les matériaux de sa maison ont une grande valeur. On est des pierres précieuses. Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi. Il a fait de nous des pierres vivantes pour qu'ensemble, on s'approche de lui puis qu'on s'édifie les uns sur les autres pour former sa maison. Une habitation de Dieu en esprit. Une maison spirituelle, verset 5. Et vous êtes comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'ancienne alliance n'a absolument rien à voir avec ce que l'on peut vivre actuellement dans cette maison de Dieu, que Dieu nous a créée avec nous et étant des pierres vivantes. Tu as ta place dans l'Église parce que tu fais partie des matériaux de construction. Et l'assemblée, quand je prends ma place dans la maison de Dieu pour faire partie de cet édifice-là, de la maison de Dieu, c'est un moyen particulier que Dieu me donne de se révéler aussi à moi. Dieu se révèle à moi de plusieurs façons, par sa parole. 1 Corinthiens 6 dit « Votre corps est le temple de Dieu ». Chacun individuellement entre nous, Dieu habite en nous. On appartient à Dieu et on est chacun d'entre nous des prêtres quand on est sauvé, quand on a été sauvé par Jésus-Christ par la foi. On est des sacrificateurs. Et alors chacun d'entre nous, on a une relation directe avec Dieu. Mais la communauté est aussi une occasion de goûter d'une façon particulière la présence de Dieu. Parce que Dieu, comme dans l'Ancienne Alliance, manifestait sa présence d'une façon particulière au-dessus, par exemple, du lieu très saint. Mais de la même façon, Dieu habite en esprit dans sa maison. Il habite au milieu de nous. Je vais vous citer, vous avez déjà tourné dans Éphésiens 2, mais Matthieu 18, 20, je vais juste vous citer. « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et on va dire rapidement aussi, « Ouais, mais si je suis seul, Dieu est avec moi. » Et c'est vrai. Mais Jésus ne l'a pas dit pour rien non plus. Ou ce que j'imagine que dans des décisions d'Église, c'est le contexte de Matthieu 18, des décisions d'assemblée, où ce qu'on s'est réunis, où qu'on demande quelque chose, où ce que deux ou trois se sont accordés pour demander une chose, où ce que deux ou trois se sont assemblés, Dieu est au milieu de nous. C'est une façon particulière de goûter la communion avec Dieu, avec notre Maître, avec Jésus. L'assemblée est une façon de s'approcher de Dieu et de connaître Dieu d'une façon particulière, puisque nous sommes près de lui. Nous sommes les matériaux de sa maison. Dieu désire la communion avec toi. Dieu désire la communion avec moi. Et il y en a une individuellement à chacun d'entre nous, et il y en a une aussi par l'Assemblée, par l'Église locale. Imaginez simplement la présence de Dieu. Quand on prend le temps de réfléchir à la présence de Dieu dans ma vie, la présence de Dieu dans notre assemblée, qu'on s'approche de lui, quelle bénédiction! Quelle bénédiction que de pouvoir avoir accès à Dieu! Je partageais ce matin dans ma classe d'école du dimanche, sous l'Ancienne Alliance, comment est-ce que les sacrificateurs, une fois par année, pouvaient entrer dans le lieu très saint, dans la présence immédiate de Dieu. C'était un accès très limité. Et maintenant, le voile ayant été déchiré, l'accès auprès de Dieu par le sang de Jésus est perpétuel. J'ai continuellement un accès auprès de Dieu. Et j'ai à en bénéficier à travers la communion que l'on a avec Dieu dans sa maison et aussi dans la communion que l'on a les uns avec les autres. Regardez, vous êtes encore probablement dans 1 Pierre 2. Approchez-vous de lui, premièrement. C'est la première des choses. Approchons-nous de lui, de la pierre angulaire. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est qu'on s'approche de lui, mais qu'on s'édifie aussi les uns les autres. Il y a une communion avec Dieu, mais dans la communauté, dans l'Église locale, il y a une communion entre les frères et les sœurs, entre les pierres vivantes, où ce qu'on s'édifie, puis qu'on a une communion les uns avec les autres, où ce qu'on a un temps de resserrer des liens, d'apprendre à se connaître, puis de s'investir et de recevoir aussi. Tournez dans psaume 133, probablement un psaume que vous avez déjà entendu, que vous connaissez bien. Peut-être pas aussi. Tu fais partie des matériaux de la maison de Dieu. Faisant partie des matériaux de la maison de Dieu, Dieu a un plan pour toi. Il veut te placer avec les autres matériaux pour continuer de former cette habitation-là de Dieu en esprit. Et Dieu, à travers sa maison, dans sa maison, il va avoir une communion avec lui directement en communauté, en assemblée. Et les uns avec les autres, il y a une communion aussi à avoir. Regardez, on va lire le premier et le dernier. On va lire tout le psaume tant qu'à faire. Il y a trois versets. Cantique de degrés de David, voici. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a deux illustrations de l'huile qui descend sur la tête d'Aaron au moment de sa consécration et aussi de cette rosée qui descend de l'Hermon sur les montagnes de Sion, qu'il est doux, qu'il est agréable. De quoi? De demeurer ensemble. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? La fin du verset 3 le dit, « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. » La vie pour l'éternité. Il y a de grandes bénédictions à saisir dans cette communion les uns avec les autres, les frères et sœurs ensemble, où ce qu'on apprend à développer nos relations ensemble et ultimement à développer notre communion aussi avec Dieu par les relations aussi que l'on a avec les frères et sœurs dans l'Assemblée. On fait partie des matériaux de la maison de Dieu. On fait partie du temple de Dieu. Le temple de Salomon n'a rien à voir. La beauté du temple de Salomon n'a rien à voir comparativement à l'habitation que nous sommes en esprit pour Dieu en esprit, en nous. OK, revenez dans Éphésiens. Éphésiens 4. Psaume 84, 5 dit « Heureux ceux qui habitent ta maison ». Psaume 122, 1 dit « Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Les mêmes applications, les mêmes vérités demeurent d'une façon différente dans cette nouvelle alliance-là, quand on a l'occasion de s'approcher en communion avec Dieu et en communion aussi avec les frères et sœurs. Ta place, la deuxième chose que je veux dire, c'est que ta place est dans l'Église, parce que l'Église est un terreau indispensable à ta croissance. L'Église est un terreau indispensable à ta croissance. Mes enfants ont une façon de comprendre la croissance physique comme des enfants. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils grandissent d'un an, eux, ils s'imaginent, à chaque fois qu'ils vieillissent d'un an, ils s'imaginent qu'ils grandissent. Alors, à chaque année, tu grandis. Fait que plus dans leur tête, la personne est âgée, plus elle est grande. Fait que là, on a un mononcle Philippe qui s'appelle, puis il mesure, je sais pas, 6 pieds 6, mettons, là. Et puis, comme Stéphane Desharnais, lui, il doit être vraiment vieux. Parce que il est très grand, tu sais. Et on s'imagine qu'à chaque fois qu'ils vieillissent d'un an, ben, ils grandissent. Mais la réalité est pas comme ça non plus. Et, sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est-à-dire que je peux vieillir spirituellement. J'ai accepté le Seigneur quand j'avais l'âge de 6 ans. Ça fait 25 ans que j'étais au Seigneur. Et puis là, je suis maintenant quelqu'un avec Dieu parce que j'ai 25 ans de vie chrétienne. Ça n'a rien à voir. Mon âge spirituel devant Dieu, ma vieillesse spirituelle n'a rien à voir comparativement à ma grandeur spirituelle devant Dieu. Dieu veut que je grandisse avec lui. Et si Dieu me donne 25 ans de vie chrétienne, 50 ans de vie chrétienne, mais que ces années-là deviennent l'occasion pour moi de mettre à profit ma croissance. Alors imaginez comment je serai grand quand j'aurai 50 ans de vie chrétienne si je me suis efforcé à grandir dans ma relation avec Dieu. Ma croissance spirituelle n'est pas sans effort. C'est-à-dire que j'ai à investir aussi dans cette croissance-là, mais Dieu m'a donné beaucoup. Dieu me donne beaucoup dans ce terreau-là qui est dans l'Assemblée, qui me fait grandir, qui me fait croître spirituellement. Les Corinthiens, 1 Corinthiens 11, 7 dit « Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Les Corinthiens avaient échappé. C'était quoi le but de venir en Assemblée qui était de devenir meilleur? Ça devrait être ça le but, de s'investir les uns dans les autres. Et puis c'était le contraire, ils devenaient pire. Il y avait des divisions qui se créaient. « Moi, je suis meilleur que toi, et puis je suis plus élevé, et puis... » Alors là, il y avait de la division. Il manquait le but que Dieu avait donné, un des buts que Dieu avait donné, qui était de grandir à travers l'Assemblée. Éphésiens 4, verset 11. La croissance, parfois, et pas toujours, heureusement, mais la croissance, parfois, est associée aussi à de la douleur, hein, même physiquement. Mais mes enfants, des fois, je me souviens même aussi quand j'étais jeune adolescent, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, les enfants, ils se réveillent la nuit parce qu'ils ont mal dans les jambes, ils ont mal dans les genoux, dans les cuisses, parce que ils grandissent dans la nuit, ils ont des bourrées de croissance des fois, puis ça leur fait mal. Puis là, ils se réveillent, puis ils ont mal dans les jambes. Et ma croissance spirituelle implique que parfois, je pourrais avoir mal. Et pas parce que j'ai nécessairement mal, que c'est pas en train de me faire grandir. Mais heureusement, comme je disais, ce n'est pas toujours non plus associé à la douleur, à la croissance. Il y a beaucoup de choses dans ce terreau-là qui me fait grandir. Regardez le verset, à partir du verset 11 dans Éphésiens 4. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dieu a tout donné en place des dons, par exemple des dons de personnes, dans un but particulier. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement et puis l'édification du corps, la croissance. Regardez, on continue, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans leurs moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à lui, à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On avait parlé des dons la dernière fois. Évidemment, il y a des dons de personnes qui sont cités là, mais il y a un élément que je veux retenir, c'est cette croissance que Dieu nous donne. Cette croissance qu'au sein d'une assemblée, au sein de notre assemblée, Dieu nous place, nous donne une place pour qu'on puisse grandir. Qu'on puisse grandir. Étant jeune converti, quand on se convertit, on est tout jeune dans la foi, bien, on a besoin de que notre foi grandisse, que notre foi s'affermisse, qu'on fasse des pas avec le Seigneur. Et comme des enfants dans une famille, j'ai trois enfants et mon dernier est en train d'apprendre rapidement, des fois malheureusement un peu pour nous, les mauvais coups des fois ou les bons coups, il est en train d'apprendre rapidement à cause des enfants qui sont là avant lui, de ses deux frères plus vieux. Et ils apprennent rapidement parce qu'ils peuvent se communiquer ensemble. Par exemple, la façon de jouer, ils vont se voir aller les uns les autres. Et l'assemblée, l'église locale, est une occasion aussi de s'investir les uns dans les autres pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse croître. Qu'on passe de l'état d'enfant, qu'on voyait au verset 14, qu'on ne soit plus des enfants flottants, mais qu'on devienne finalement la stature parfaite de Christ à travers l'unité de la foi. Les autres me font grandir et Dieu me donne l'occasion aussi de participer à la croissance des autres. Spirituellement, je fais probablement grandir beaucoup ma femme et mes enfants. Et j'espère que c'est parce que je suis un bon père, un bon mari, un bon disciple de Christ. Et je sais que je les fais grandir spirituellement parce que je leur donne l'occasion régulièrement de pratiquer le pardon, la miséricorde, la patience, la bonté et plusieurs vertus comme ça que j'ai besoin de mes proches envers moi à mon égard et que moi aussi j'ai l'occasion de manifester. On a des choses à apprendre dans les relations que l'on a les uns avec les autres. C'est facile d'être patient quand on est tout seul. Hein? Même tout seul, des fois, on se tombe ses nerfs. Mais quand on est avec d'autres, on apprend. C'est la pratique, la manifestation de l'amour, du pardon, de la patience, de la bonté. Et Dieu me fait grandir. C'est cet aspect-là. Des fois, je disais que on se réveille le lendemain et je disais, oh, ça a fait mal un peu. Mais je sais que j'ai grandi. Et je vais mettre ça, je continue de le mettre en pratique dans ma vie. Et on fait des pas dans la vie chrétienne comme ça que Dieu place devant nous pour qu'on soit de plus en plus des hommes faits à la stature parfaite de Christ. Philippiens 2, tournez dans Philippiens 2, les cinq premiers versets. On parlait de l'unité de la foi. L'unité que l'on a besoin de vivre en assemblée ici, les uns avec les autres, de vivre cette communion-là qui va faire en sorte que l'assemblée ensemble, on va devenir un terreau indispensable à la croissance spirituelle. Dieu place des éléments dans nos assemblées, en dedans de chacun d'entre nous, pour qu'en étant ensemble, on grandisse dans notre relation avec Dieu, qu'on devienne des gens matures dans la foi, et ça, c'est accessible à cause de mes relations que l'on a dans l'Assemblée. Et Philippiens 2, les cinq premiers versets. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Pour nous, que de rechercher la stature parfaite de Christ, entre autres, que de rechercher les sentiments qui étaient en Jésus. Ces sentiments d'humilité, là, le sentiment que de vouloir élever mon prochain, de renoncer à mes intérêts pour considérer ceux de mon prochain en premier, ça me fait grandir. Ça me fait grandir pour développer les sentiments qui étaient en Jésus aussi, que moi je vais mettre en pratique. Ces occasions que l'on a ensemble de vivre l'union, l'unité, un même amour, une même pensée, une même âme, un même sentiment, qu'on vive ensemble comme ça, ça nous donne l'occasion de grandir dans notre relation avec Dieu. On en a besoin. Et quand on est tout seul, malheureusement, il nous manque plusieurs éléments qui vont nous amener à grandir dans notre relation avec Dieu. Vous savez, dans notre personne, on vient de lire tantôt dans Corinthiens, que les gens se réunissaient pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Notre cœur, naturellement, cherche ses propres intérêts. On cherche à être élevé et pas à élever l'autre. Peut-être naturellement, le péché va nous amener à vivre à l'inverse. Et même tout seul, on est capable de s'ostiner, comme je disais tantôt. Je vous ai déjà raconté une petite farce, là, ça fait plusieurs années. Je vous la raconte. C'est une fois un naufragé qui était perdu en mer, et puis, ben c'est ça, il était naufragé, il s'est retrouvé sur une île déserte, et pendant plusieurs années, aucun secours est venu. Puis tant bien que mal, il a essayé de se débrouiller pour vivre sur son île déserte, pour essayer de survivre, manger, habiter, puis bon. Et là, quelques années plus tard, il voit un bateau qui passe, et puis là, il fait des signes, puis là, le bateau, il s'approche. Puis là, il y a des gens à l'intérieur du bateau qui, là, ils découvrent cet homme-là qui était recherché depuis plusieurs années. Les recherches avaient abandonné. Puis là, hein, on a retrouvé le naufragé. Ben, c'est incroyable. Ça fait des années que t'es tout seul. Comment t'as fait pour survivre comme ça? Fait que là, il dit, ben, suivez-moi, je vais vous montrer le tour de mon île, comment je me suis établi. Et puis là, il passe proche de sa maison. Puis il dit, regardez, là, c'est l'endroit où j'ai habité. Puis j'essayais d'avoir un toit pour dormir. Et puis c'est là que je faisais ma nourriture. Et puis c'était ma maison, finalement. Et là, il continue un petit peu plus loin, puis là, il y a un autre bâtiment, puis là, les gens disent, c'est quoi ça? Et il dit, ça, c'est mon église, c'est l'église à laquelle j'assiste. Mais là, les gens disent, mais c'est drôle, parce qu'il y a une autre église proche qui a de l'air presque pareil. Ça, c'est mon ancienne église. Même seul, il réussissait à se séparer, même s'il était tout seul, il s'est fait une autre assemblée, une autre église, du moins c'était un bâtiment parce qu'il était seul. Ça révèle de notre cœur que les uns avec les autres, on a besoin de développer cette unité-là, développer ces liens-là, ces ressources-là, et que parfois, on va avoir à mettre en pratique l'amour, on va avoir à mettre en pratique le pardon, la patience, mais ça me fait grandir. Ça me fait grandir dans ma relation avec Dieu parce que c'est ça le but ultime. Je fais juste vous citer quelques versets. 1 Jean 4, 11 et 12. « Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Éphésiens 4, 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. » Colossiens 3, 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. » Dieu nous a donné un exemple, Christ nous a donné un exemple, et il veut qu'on le mette en pratique aussi. Cette mise en pratique-là, elle est vraie, elle est efficace au sein d'une communauté. Ça devient un terreau fertile pour ma croissance. Tu as une place dans l'Église parce que tu fais partie des matériaux de sa maison. Tu as ta place dans l'Église parce que Dieu a placé un terreau fertile nécessaire à ta croissance au sein de l'Assemblée. Et tu as ta place dans l'Église aussi parce que l'Église est un pit stop spirituel. OK. Un pit stop, c'est... connaissez-vous un peu la Formule 1? Moi, je ne connais pas beaucoup la Formule 1, mais vous allez comprendre l'illustration très bien. Imaginez les performances, par exemple, de la Formule 1. De 0 à 100, une machine, là, une auto comme ça, peut aller de 0 à 100 à peine un peu plus vite que mon auto en 1,9 secondes. Alors... Sur un circuit, par exemple, standard, les autos peuvent atteindre 365 km/h. Alors, ils arrivent vite au dépanneur. Et juste la décélération, juste pour vous montrer la puissance de ces machines-là, juste la décélération, le pilote, il lâche l'accélérateur. Il fait juste ça, il lâche l'accélérateur. C'est l'équivalent d'une auto sport qui freine dans le fond, juste en arrêtant de peser sur l'accélérateur. Et s'il décide de peser ses brakes, de 300 à 0 en 3,5 secondes. C'est pas pire, hein? Imaginez la performance de ces autos-là. C'est tout à fait incroyable. Il y a deux courseurs que je veux attirer votre attention. Michael Schumacher, que vous connaissez probablement bien, ou du moins vous avez déjà entendu parler, et Andrea des Césaris. Tous deux ont des records. Michael Schumacher a eu 154 podiums en 249 courses. Et c'est le meilleur. Et Andrea des Césaris a eu 148 abandons en 208 courses. Alors, ils sont tous les deux premiers dans leur catégorie. Sauf que Michael Schumacher, c'est lui le gagnant. C'est lui qui a gagné des courses. Et c'est pas tout que d'être un bon pilote. Je suis sûr que Michael Schumacher est un bon pilote de course, qu'il a une machine très performante entre les mains, sauf qu'il a besoin de faire des arrêts au puits régulièrement. D'où mon terme pit stop, des arrêts au puits régulièrement. Un courseur automobile qui se dit « Moi, je suis un bon courseur. » Puis je m'en vais en Formule 1, puis l'écurie, je m'embarrasse pas de ça. Je m'en vais dans la course et puis j'arrête pas. Moi, je tourne tout le long. Bien, c'est sûr et certain qu'il gagnera jamais. J'en suis certain. Et même avec une écurie, comme par exemple Andrea De Cesaris, il y a eu 148 abandons. Peut-être que c'était un bon pilote, mais il avait besoin lui aussi d'une écurie. Bon, il y avait des problèmes techniques avec probablement avec l'auto, avec l'écurie, puis il y a différentes choses. Michael Schumacher est probablement un très bon pilote. Il a probablement une très bonne voiture, puis il a aussi probablement une très bonne écurie. Et il écoutait les conseils aussi de son écurie qui lui disait « c'est le temps d'arrêter ». La vie chrétienne pour nous est un peu comme une course où ce que l'Église est l'occasion pour nous de faire des arrêts au puits régulièrement. Régulièrement. Le Nouveau Testament donne cette même image-là pour des bateaux qui veulent réparer des filets qui reviennent au port, mais ils vont réparer leurs choses pour pouvoir repartir aussi. L'Église locale est un arrêt au puits régulier qu'on a besoin de faire pour avoir une course performante dans la vie chrétienne. J'ai besoin de l'Assemblée. J'ai besoin de mon Église locale. L'Église est un endroit pour être réparée, pour faire le plein, pour être ravitaillé. Ces autos de course-là, ils vont arrêter parce que des fois, ils ont un bris mécanique, ils ont besoin de remplir l'essence, changer les pneus. Et l'Église locale, pour moi, elle est utile pour moi aussi pour me ravitailler, pour me réparer. Je vais vous lire trois textes. En attendant, vous pouvez tourner dans Actes 14. Galates 6, 1, 2 dit « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Parfois, je peux avoir des bris mécaniques dans ma relation avec Dieu. Je peux avoir un problème où ce que j'ai besoin d'être repris. Et puis quelqu'un dans l'assemblée avec un esprit de douceur va venir me voir, puis David. Puis il va chercher à me gagner. Et puis je vais revenir. Et portez les fardeaux, verset 2, portez les fardeaux les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Les uns avec les autres, on forme un arrêt au puits où ce qu'on prend soin comme ça les uns des autres, où ce qu'on veille les uns sur les autres. 1 Thessaloniciens 5, 14 dit, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » On a besoin que de s'investir comme ça, que ce soit par exemple quelqu'un qui vit dans le désordre, de consoler quelqu'un qui est abattu, de supporter quelqu'un qui est faible dans une période. C'est notre responsabilité. Peut-être que c'est moi qui est faible, puis j'ai besoin aussi d'être supporté par les autres. Philippiens 2, 19, 21 dit « J'espère dans le Seigneur ». Même Paul probablement qui est le Schumacher de la foi, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » Paul, qui était un homme de foi important, est en train de souffrir dans cette circonstance-là du manque de relation de son assemblée. Puis envoyer Timothée, puis j'espère avoir de vos nouvelles. Parce qu'il n'y a personne proche de moi qui prend à cœur votre situation. Et Paul, il avait besoin de cette communion-là, de cet arrêt au puits-là spirituel qui allait lui faire du bien. Il avait besoin d'être renseigné. Vous avez trouvé Actes 14, on va le lire ensemble. Verset 19. Alors, survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Paul, il venait de subir il était dans une ville où les gens avait dit, hey, Paul est un dieu. Et là, il y a des juifs, là, Paul a essayé de se défendre. Non, 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 on n'est pas des dieux, là. Et là, il y a des juifs qui viennent et puis renversent le témoignage de Paul pour dire, finalement, et ce qu'ils disent est mauvais, ils cherchent à vous arnaquer. Et là, les juifs ont gagné la foule. On lapidait Paul à un point tel que quoi? Ils pensaient qu'il était mort. Ils l'ont traîné à l'extérieur de la ville. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples l'ont entouré. Paul avait besoin. Il venait d'être lapidé à un point tel qu'il était fort probablement amoché. Et les disciples l'ont entouré. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il est rentré dans la ville, à l'endroit où il s'est fait lapider. On a besoin de cette communion-là. On a besoin de la communauté des frères avec les sœurs que si on vit un moment, une épreuve, une affliction, une tribulation, Dieu veut pas que je les vive tout seul. Dieu m'a donné une place dans l'Église. Dieu t'a donné une place dans l'Église pour que tu puisses faire régulièrement des arrêts au puits pour être réparé, pour être soutenu, pour être ravitaillé. Et les épreuves, Dieu veut qu'on les vive ensemble. Dieu veut qu'on prenne soin les uns des autres. Dans ces tribulations-là, comme ce que Paul est en train de vivre à cause de sa foi, il vient d'être lapidé. Puis qu'est-ce qui se passe? Les disciples, ils viennent l'entourer. Puis probablement, ça leur donnait cette force-là à Paul, ce courage-là que de se relever puis de retourner dans la ville. Puis de continuer son ministère. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés et délivre les captifs et les rend heureux. Dieu nous a donné une famille. Dieu veut qu'à travers notre assemblée, on ait l'occasion de se ravitailler, de prendre soin les uns des autres. Avoir une course efficace, ça nécessite des arrêts au puits réguliers. Et on a besoin de s'attacher à une assemblée. Vous êtes là, probablement vous y croyez aussi. Rappelez-vous ces vérités-là. Rappelez-vous ces vérités qu'on a besoin que Dieu te donne une place dans l'Église. Dieu te veut à l'Église pour plusieurs raisons, pour 6 raisons qu'on a nommées à travers 2 prédications. Appartenir à une assemblée, c'est vrai que ça implique le fait de venir le dimanche matin, de s'asseoir, de chanter, d'entendre la prédication, de donner son offrande pendant un temps, par exemple le dimanche matin. C'est vrai, c'est ça aussi, entre autres. Mais c'est aussi l'occasion d'entretenir des relations proches avec certains frères et sœurs de notre assemblée pour qu'on puisse veiller les uns sur les autres, pour que je puisse veiller sur lui puis que lui puisse veiller sur moi. Peut-être ça va se manifester dans une bergerie, peut-être dans un groupe d'hommes, peut-être dans un groupe de femmes, où ce qu'on va prendre, où ce qu'on va resserrer des liens avec des personnes plus particulièrement. C'est de participer aussi à la vie de l'Église avec la force qui convient à chacune de ses parties. Dieu vous a donné des dons. Dieu veut que je m'investisse à travers les dons qu'il m'a donnés et à travers mon assemblée. Dieu est le Père. Nous sommes ses enfants. On est sa famille. Jésus est la tête. Nous sommes son corps. Jésus est la pierre angulaire. Nous sommes son temple. Jésus est l'époux. Nous sommes son épouse. Jésus est le bâtisseur. Nous sommes son Église. Puis Dieu a une place pour toi dans son Église, pour que tu t'y attaches. Prions. Seigneur, on veut te louer encore. Quelle bénédiction que tu nous donnes. Quel privilège que tu nous donnes que d'avoir une place dans ton Église, dans ton assemblée. On veut te glorifier, on veut te louer, t'adorer. Tu nous as donné toutes ces choses-là, Dieu, pour grandir avec toi. Pour être près de toi, pour avoir une communion avec toi, avoir une communion avec nos autres frères et sœurs aussi. Et on veut te dire merci pour ça. Seigneur, je te prie pour notre assemblée. Je te prie pour que tu la bénisses, Seigneur, pour que tu nous fasses grandir en communauté, que chacun d'entre nous, Seigneur, on s'investisse les uns avec les autres. Seigneur, je te prie que tu puisses faire de nous une lumière resplendissante par l'amour que l'on a les uns avec les autres. On veut s'engager, Seigneur, dans cette marche-là que tu nous as donnée dans tes Écritures. On veut être efficace là où tu nous as placés. Tu nous as placés à Beauport pour avoir un témoignage jusque dans la région de Québec et même plus loin, Seigneur. On te prie pour tous ces moyens d'évangélisation qu'on place aussi, qui sont là devant nous cet été. On veut s'investir aussi en communauté. On ne veut pas être plusieurs individus qui se rassemblent quelquefois, mais on veut être des individus qui forment une communauté, un corps, Seigneur, une famille. Et que tu sois glorifié à travers elle, que tu sois exalté, que tu sois élevé. C'est en nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen.